Le texte qui fait l'objet de notre méditation est tiré du livre d'Hébreux, chapitre 10, du verset 24 au verset 25. Il a pour thème « Veillons les uns sur les autres ». Le prédicateur, c'est notre révérend Doramin Djeya. La lecture nous sera faite par le diacre Joseph.
Hébreux, chapitre 10, les versets 24 à 25. Là, il est écrit « Veillons les uns sur les autres ». Pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen.
Amen.
Alléluia. Jésus revient bientôt. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que je serai prêt? Est-ce que tu seras prêt? Est-ce que nous serons prêts, bien-aimés? Merci pour ce chant de la chorale. Si nous devons être prêts, bien-aimés, seul celui-là qui veille sera prêt. Alléluia. Veillez, bien-aimés, les uns sur les autres. C'est une chose très importante pour la vie chrétienne. Dans ce livre d'Hébreux, chapitre 10, que nous avons lu à partir du verset 19 jusqu'à la fin du chapitre. Ici, l'auteur nous exhorte à une confiance et à une fermeté dans la foi. Et pour le faire, bien-aimé, pour demeurer dans la foi, on doit veiller les uns sur les autres. Comment veiller? Pourquoi veiller? Pourquoi est-ce que nous devons veiller, bien-aimé? Le verset 24 nous dit ici, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen. Donc le but de veiller, c'est que nous puissions rester dans la charité, marcher dans la charité et dans les bonnes œuvres. Sinon, on pourra dévier. La charité ici, c'est également l'amour. Bien-aimés, il s'agit de marcher dans l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain. C'est l'amour qui nous montre que nous vivons pour le Seigneur Jésus. L'amour que nous vivons témoigne que nous appartenons à Jésus-Christ. Les œuvres que nous produisons témoignent que nous appartenons à Jésus-Christ. Bien-aimés, mais l'amour, c'est quoi? 1 Corinthiens 13, verset, à partir du verset 4, nous montre ce que c'est que l'amour. Je vais lire pour nous. L'amour est patiente. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Amen. Alléluia. Bien-aimé, voilà ce que c'est que l'amour. Donc, toutes ces caractéristiques de l'amour, bien-aimé, cité, est-ce que nous les voyons dans notre vie? Ça, c'est l'amour qui provient de celui qui vit pour Dieu. Et nous sommes interpellés, bien-aimé, à veiller à produire cet amour-là tous les jours de notre vie. Nous voyons ici, bien-aimé, que si nous marchons dans le véritable amour, nous serons des personnes qui veillent sur la relation avec le Seigneur. Le verset nous dit ici, verset 5, l'amour ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Bien-aimé, est-ce que nous cherchons notre intérêt? Nos propres intérêts, ça veut dire quelque part, nous ne marchons pas dans l'amour. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. On se substitue envers notre prochain, notre frère, notre soeur. Oh, il fait des choses, il fait des choses. On soupçonne tout. On a des visions sur la personne qui montrent que, oh, voilà, oh, est-ce que c'est vraiment l'Esprit de Dieu ou bien c'est parce que nous marchons selon la chair. Bien-aimé, l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Alléluia. Elle excuse tout. Il n'y a rien qui ne soit impossible d'excuser pour l'amour. Elle croit tout en la parole de Dieu. Elle espère en la parole de Dieu. Elle espère tout en ce qui sort de la parole de Dieu. Elle est attachée, elle supporte tout. Quelle que soit ce qu'elle traverse, elle supporte, bien-aimée. Ça, c'est la vraie caractéristique de l'amour. Si nous marchons véritablement dans l'amour, les éléments cités plus haut, bien-aimés, vont se retrouver dans notre vie. Donc, quand on dit veiller à vivre dans l'amour, c'est-à-dire que nous devons rechercher ces éléments de l'amour-là dans notre vie. Quels sont les éléments qui nous manquent, bien-aimés? Recherchons cela afin de les avoir pour la gloire de Dieu. Et celui qui marche dans l'amour, bien-aimé, va produire les bonnes œuvres. Alléluia. Il est écrit, bien-aimé, qu'il produira également les bonnes œuvres. La charité est aux bonnes œuvres. Nous allons produire des bonnes œuvres en tant que chrétiens. Chrétiens dans ce monde, chrétiens devant les païens. Et quand les païens vont voir les œuvres que nous produisons à cause de l'amour de Christ qui est en nous, bien-aimés, ils vont glorifier le Seigneur le jour que le Seigneur va les visiter. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous devons veiller à marcher dans l'amour et produit les bonnes œuvres. Voilà ce pourquoi nous devons veiller les uns sur les autres. Également, veillez pour demeurer ensemble. Le verset nous dit ici, dans le verset 25, ça montre de demeurer ensemble. Nous sommes le corps de Christ. Et le corps a plusieurs membres. Lorsqu'un membre est malade, c'est tout le corps qui est malade, est affecté. Et lorsque, bien aimé, une personne ne se sent pas bien dans le groupe autour de nous ou dans l'église, c'est l'église doit ressentir, ou bien le groupe doit ressentir cette douleur que cette personne est en train de vivre, bien aimé. Ça veut dire que nous sommes en train de veiller les uns sur les autres. Nous veillons pour demeurer ensemble. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, versets 11 à 10 à 12, nous dit « De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort que l'un, les deux peuvent lui résister et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » Bien-aimés, nous voyons ici comment il est important de rester dans la communion fraternelle les uns envers les autres. Ça nous fortifie, ça nous rend invincibles par rapport aux adversités externes qui veulent atteindre nos vies. Il y avait un frère dans une église où j'étais. Ce frère, à un moment, on ne le voyait plus. Et on priait pour lui. Mais un temps, on a vu ce frère, il a dit qu'il est devenu musulman. Et on a continué à prier pour lui. Mais après notre temps, ce frère est revenu à l'église. Sa tête ne tenait plus bien. Il était un peu cinglé. Et on a découvert qu'il est allé là-bas, il s'est baptisé même. Lui qui avait été baptisé en Christ, il est parti encore se baptiser dans une autre religion. Et l'église s'est mise à prier pour lui, pour sa délivrance. Bon, entre-temps, je m'étais déplacé, donc je ne connais pas la suite de ce frère. Mais bien aimé, parce que ce frère était séparé des autres, il est devenu la proie pour l'ennemi. L'ennemi a miroité les richesses. Et c'est pour ça qu'on savait que ce frère aimait beaucoup les richesses. Et c'est pour ça qu'il est parti, il a laissé ce pour aller dans une autre religion. Et voilà les conséquences qui sont tombées sur sa vie, contre sa vie. Mais parce que l'Église priait pour lui, il est revenu dans le Seigneur. Certainement, le Seigneur l'avait restauré. Bien-aimé, également, quand nous sommes ensemble, c'est là où le Saint-Esprit agit avec puissance. C'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Comme le psaume 133 nous le dit, que lorsque les frères sont ensemble, bien-aimés, Dieu envoie des bénédictions. Le Saint-Esprit est en action. Dieu apporte la guérison, la transformation, la vie. C'est pour ça que nous devons veiller pour recevoir les grâces et les bénédictions de Dieu. Pour que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à nos vies. Pour être fort contre toute adversité qui s'élève contre nous, bien-aimés. Et pour cela, bien-aimés, nous devons également veiller parce que le jour s'approche. Le jour s'approche. Il y a un temps où le Seigneur vient vers nous pour consommer le fruit que nous produisons en tant que des figuiers. Jésus a approché un figuier quand il avait faim. Il a vu sur ce figuier, il n'y avait pas de fruit et il a maudit le figuier. Là, quelque part, là, d'autres versions disent, d'autres évangiles disent que ce n'était pas la saison des figues. Mais en réalité, quand ce n'est pas la saison des figues, même des figues sont sur les figuiers et on peut les consommer, des figues vertes. Mais il n'y avait pas de figues, il n'y avait pas de fruits sur le figuier et Jésus a maudit le figuier qui a séché. Donc, bien-aimés, dans notre vie, bien-aimés, nous sommes comme des figuiers qui doivent produire des fruits, le fruit de l'esprit. Et le Seigneur consomme cela. Les bien-aimés consomment cela, bien-aimés. C'est pour cela que nous devons veiller à produire toujours des fruits. Alléluia. Produisons des fruits, bien-aimés, pour que quand le Seigneur vient, il voit des fruits dans nos vies. Et il en consomme. Et pour que les autres également consomment ces fruits pour donner la gloire à Dieu. On ne doit pas dire, non, j'ai trop pardonné. Vraiment, aujourd'hui, je ne pardonne pas. Non, ça veut dire que, bien-aimé, tu es en train de cesser de produire le fruit. Tu dois constamment produire ce fruit. En tout temps, en toute saison, dans toutes circonstances, tu dois produire le fruit de l'esprit. Alléluia. Deuxième chose, bien-aimé, le jour s'approche, il s'agit de l'avènement de Jésus. La chorale en a chanté. Nous allons prendre cet exemple par le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. L'exemple des 10 vierges qui attendaient l'arrivée de l'époux. Et comme l'époux tardait à arriver, toutes se sont assoupies. Et au milieu de la nuit, on dit, voici l'époux qui arrive. Elles avaient des lampes. Et maintenant, quand elles se réveillent pour aller rencontrer l'époux, les lampes de certains s'éteignent. C'était 5. Et les lampes, or les 5 autres, qui sont les vierges sages, avaient des lampes allumées. Parce qu'elles ont veillé. La lampe allumée, ici c'est quoi, bien-aimé? Nous voici là qu'elles étaient prêtes dans toutes circonstances, dans toute situation, en tout temps, de produire la lumière de Christ. Alléluia. Or, les vierges folles étaient incapables. Donc, elles n'étaient pas prêtes. Et ce qui a fait quoi? Elles ont raté la rencontre de l'époux. Elles sont venues en retard. Il se faisait tard pour elles, bien-aimées. Donc, le Seigneur a dit, quand il va revenir sur la terre, est-ce qu'il va trouver encore la foi? Bien-aimé, celui qui veille demeure dans la foi. Le Seigneur va le trouver dans la foi pour l'enlèvement. Alléluia. Maintenant, comment devons-nous veiller, bien-aimé? Verset 25. Le verset 25 nous montre ici par l'exhortation. L'apôtre Paul dit ici dans Romains 12, verset 1. Je vous exhorte, donc, frères, donc, exhortez à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le but de l'exhortation, bien-aimé, c'est d'encourager les uns les autres à avancer dans leur intimité avec le Seigneur. Donc, nous devons nous exhorter les uns et les autres. Cela est important. Encourager, s'encourager les uns les autres à marcher avec le Seigneur, à persévérer dans la foi, à produire les fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit, et ainsi à avoir une vie agréable à Dieu. Donc, c'est ça, bien-aimé, celui qui veille, ça se voit par l'exhortation qu'il apporte aux autres, pas des paroles d'encouragement pour les fortifier. On s'encourage les uns les autres dans le Seigneur. Également, celui qui veille, bien-aimé, comment est-ce qu'il veille? C'est par la prière. Le livre de Colossiens 4, verset 12, c'est Epaphras qui parle ici, Paul parle d'Epaphras ici, qui est de vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Amen. Donc nous voyons ici là, bien-aimés, prier les uns pour les autres, afin que nous demeurons et que nous persévérons dans la volonté de Dieu. Parce que c'est très facile de déraper à cause du monde et toute sa convoitise, à cause de la chair et tout ce qu'elle nous offre comme plaisir. C'est facile de déraper. Mais quand nous restons dans la prière, bien-aimés, les uns pour les autres, nous devons prier que nous demeurons dans la volonté de Dieu. Alléluia. C'est lui qui veille, prie pour les autres, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans leur vie. Il y a également une autre manière de veiller, bien-aimé, dans la prière. Prier pour les autres, afin que le Seigneur les fasse sortir des difficultés qu'ils traversent. Nous avons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. Ici, l'Église qui priait pour Pierre qui était en prison. Et le Seigneur a délivré Pierre de la prison. Ainsi, nous devons prier, bien-aimés, pour les bien-aimés qui sont dans les situations difficiles. Des bien-aimés qui traversent des difficultés. Ne les abandonnons pas, bien-aimés. Prions pour eux. Allons vers eux. Encourageons-les. Prions avec eux, Seigneur. Prions avec eux. Et évitons, bien-aimés, de nous concentrer seulement sur nous. Prions également pour les autres. Cela est très important, bien-aimés. Et cela montre que nous sommes en train de veiller. Bien-aimés, il faut prier pour tous les saints, afin que le Seigneur puisse les fortifier et que l'œuvre de Dieu avance dans leur vie. Et c'est lui, bien-aimé, qui veille aussi. Ça se voit comment? Par des avertissements. Quand on dit qu'on veille les uns sur les autres, tu vois que ton frère est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Tu fermes ta bouche, ou bien tu le supportes, tu l'encourages, ou bien tu peux parler derrière. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça. Il faut parler à ton frère quand tu sais qu'il est en train de prendre une autre voie qui n'est pas Dieu, qui n'est pas la voie de Christ. L'Évangile, les épîtres de Pierre, 2 Pierre 1, verset 13, nous dit « Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans mon corps, et de vous tenir en éveil par des avertissements. » Donc, c'est Pierre qui est conscient de la responsabilité qu'il a de pouvoir maintenir les bien-aimés en éveil, éveillés par des avertissements, afin qu'ils reviennent au Seigneur quand ils sont en train de s'éloigner. Ils doivent revenir au Seigneur. Donc, raison pour laquelle, bien-aimés, on doit veiller les uns sur les autres et avertir ceux-là qui sont vivés dans le désordre, afin qu'ils renoncent au désordre et reviennent au Seigneur. 2 Thessaloniciens 3, versets 14 à 15. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Amen. Alléluia. Ça, c'est difficile, n'est-ce pas, bien-aimé, de voir ton frère. Tu sais que ce qu'il fait n'est pas bien, mais tu fermes ta bouche. Ou bien, quelque part, tu pars l'encourager, tu pars faire comme lui. Ou bien, quelque part, tu pars plutôt chanter son nom dehors. C'est très mauvais, bien-aimé. La Bible demande de faire comment? D'aller vers ce frère. Alléluia. Tu pars vers ce bien-aimé pour en parler avec lui, bien-aimé. C'est notre responsabilité. Nous avons la responsabilité d'avertir ceux qui vivent dans le désordre parmi nous. C'est notre responsabilité, bien-aimé. Si Dieu t'a montré, bien-aimé, c'est qu'un autre fait qui ne l'honore pas, c'est pour que tu prie pour lui et que tu parles à cette personne. Mais qu'est-ce que nous faisons généralement? Nous prenons ça comme un sujet de commérage. On ne parle pas parler, on ne parle pas à la personne, mais on parle plutôt chanter ça partout autour de nous. Ça détruit plutôt l'Église. Ça détruit la communion fraternelle, bien-aimée. Le Seigneur veut que nous en parlons avec cette personne. Et si nous avons peur, bien-aimé, prie. Parce que le plus souvent, les gens ont peur de dire la vérité aux autres. Tu sais que telle personne fait ce qui n'est pas bien, mais tu as peur de lui dire. Parce qu'on va te prendre pour un méchant. On va te donner un visage que tu ne veux pas. Bien-aimé, c'est ta responsabilité. Si le Seigneur t'a montré, assume la responsabilité d'aller parler aux frères afin de le sortir de cet état-là. Ézéchiel 33, verset 8 nous dit que quoi? Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Alléluia. Alléluia. C'est ça la réalité, bien-aimé. Le Seigneur dit, quand tu as vu celui-là se détourner, tu as fermé ta bouche, tu as avalé la chose, tu as caché ça, ou bien tu es parti le supporter. Si le malheur arrive, il va redemander le sang de cette personne à toi, bien-aimé. C'est ça notre responsabilité. Donc, c'est d'avertir les autres. Et quand on parle d'avertir, ce n'est pas utiliser les manières braconiennes, crier, taper sur la personne. Non, bien-aimé. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire dans l'amour pour sortir ces bien-aimés dans cette situation. Alléluia. Donc, c'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, ne participons pas au péché de l'autre. Ne nous taisons pas devant le péché de l'autre. N'ayons pas peur, mais avertissons-le comme des frères. Avertissons-le comme un frère pour que Dieu ne te redemande pas son sang. Alléluia. Bien-aimé, maintenant comment appliquer ceci? On doit veiller les uns sur les autres, oui. Maintenant, comment est-ce que nous devons appliquer cela? Nous devons d'abord commencer par veiller sur nous-mêmes. Amen. Lisons ensemble Proverbe 16, verset 17. Lisons ensemble Proverbe 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Proverbe 16, verset 17. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Amen. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Bien-aimés, commençons par veiller sur notre propre âme. C'est la bonne démarche. Mais le plus souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous fermons les yeux sur nous-mêmes, mais nous regardons ce que l'autre fait. Alors que nous-mêmes, nous sommes dans la même situation, bien-aimés. Examinons-nous d'abord notre propre vie. Veillons sur nous-mêmes, bien-aimés. Est-ce que ta vie est conforme à Christ? Ou bien ta vie est conforme au monde? Si ta vie est conforme au monde, bien-aimé, reviens à Christ. Alléluia. Veillons et corrigeons notre vie. Alors, nous pouvons mieux veiller sur notre prochain. Alléluia. Maintenant, veillez sur notre prochain bien-aimé. L'application ici, là, regarde, lisons ensemble Jacques 5, verset 19 à 20. Jacques 5, verset 19 à 20, il est écrit, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Amen. Nous sauvons une âme de la mort. C'est ça, bien-aimé, quand nous ramenons une personne de l'égarement qu'il a entrepris. Nous le sauvons de la mort, mais tout doit commencer d'abord par nous-mêmes. Si nous veillons sur nous, nous pouvons mieux veiller sur les autres. Ça ne sera plus un sujet de conflit. Ça ne sera plus un sujet de commérage. Parce que nous veillons d'abord sur nous-mêmes. Ainsi, nous pouvons mieux veiller sur les autres. Ça sera plutôt de l'amour qui va communiquer les uns envers les autres et les ramener dans le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu veilles sur ton prochain? Est-ce que tu veilles sur toi? Est-ce que nous veillons les uns sur les autres? Le Seigneur nous demande en ce matin de veiller sur nous et de veiller sur notre prochain. Amen. Prions le Seigneur. Père, à toi la gloire, à toi la puissance pour ce message. Toi qui nous interpelles en ce matin de veiller sur nous et sur notre prochain, Seigneur. Bénis ce passage, bénis cette parole et que cela porte des fruits dans la vie pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.